Envoie-lui un message quand même, parce que... Sabine Tourlier ne vient pas. Donc, vous pouvez remonter. Tu fais un message à Olivier pour savoir s'il arrive, on l'attend 3 minutes ou si on commence. Bonsoir à tous, à toutes. Alors avant de commencer le conseil, je voudrais juste vous dire que Monsieur Alain Jam est tombé hier à Montferrier dans la rue en allant justement s'occuper pour la commune de savoir si l'électricité était remise ou pas remise. Il est tombé et s'est fait a priori une fracture du fémur. On a cru que c'était un col du fémur, finalement ce n'est pas un col, et il devait se faire opérer à 16h cet après-midi. Donc si je regarde mon portable, ne pensez pas que je m'ennuie, c'est que j'attends un message pour savoir si l'opération s'est bien passée. Voilà, donc opération cet après-midi normalement, bon c'est un peu délicat au vu de sa pathologie. Donc voilà, et après on compte lui mettre qu'un simple clou, ça veut donc dire une récupération beaucoup plus rapide que si on avait mis une prothèse de hanche. Hein. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et qu'il récupère le plus rapidement possible et qu'il revienne parmi nous le plus rapidement possible. Voilà, maintenant que je vous ai annoncé ça, on va faire l'appel. Alors, donc, Devoiselle Brigitte présente, Bernard Capot.
Présent.
Amélie Giorgetti.
Présente.
Alain Jam, absent. Marie-Hélène Cabas.
Présent.
Olivier Marie, ok. Steve Chrétien.
Présent.
Béatrice Rouquayrol.
Présent.
Jean-Pierre Depont.
Présent.
Bruno Barascud.
Présent.
Bruno Bail.
Présent.
Michel Boyer.
Présent.
Christian Crespi.
Présent.
Valérie Gombert, représentée. Alors, Valérie Gombert, représentée par Madame Rouquayrol. Frédéric Guédan.
Présent.
Véronique Janin. Représenté par Eda Lagrifol. Eda Lagrifol. Olivier Masson, absent. Christian Raymond.
Oui, présent.
Sophie Rivinck.
Présent.
Marie-Lyne Serre, représentée. Par Jean-Pierre Depont et Alain Jam a donné son pouvoir, excusez-moi, à Monsieur Capot. Excusez-moi. Excusez-moi. Michel Thomas.
Présent.
Sabine Tourlier, représentée par Madame Rivinck. Michel Bourrelli.
Présent.
Myriam Gelsomino.
Présente.
Jean-Marie Prosperi.
Représenté par moi.
Jean-Paul Bord. Et Céline Gaulin. Donc, le quorum est atteint, on va pouvoir délibérer. Oui. Alors, Jean-Marie Prosperi, lui aussi, a été opéré aujourd'hui. Décidément, on a deux élus qui se sont fait opérer aujourd'hui. Et j'espère que ça s'est bien passé. On attend des nouvelles.
On n'a pas de nouvelles.
On n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, ouais, hein, dit le programme.
Comme c'était programmé, c'est quand même...
Voilà, oui, c'était programmé.
Mais c'est vrai que c'est pas marrant parce qu'il doit rester mobilisé pendant longtemps.
Ah oui, là, lui aussi.
Pas rendu non plus.
Non, il n'est pas rendu, comme vous dites. Bien, nous allons nommer un secrétaire de séance aujourd'hui. Je vous propose M. Chrétien, dans l'ordre, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, ensuite, nous allons voter l'approbation du dernier PV, du dernier conseil. Vous l'avez tous reçu. Avez-vous des remarques sur ce PV? Oui, je vous écoute, Monsieur Borg.
Bien, bonsoir, merci. Alors, première remarque. Alors, voilà, j'ai demandé un micro parce que lors de chaque intervention, on n'est pas entendu. Alors, j'ai repéré ça sur l'audio qui est mis en ligne. Camélie a mis la ligne la dernière 18 mars, et j'ai constaté que bon, Céline n'entend pratiquement pas. Moi, c'est vrai qu'avec les masques, c'est aussi une contrainte. Donc, il nous faudra un micro chaque fois que l'on parle.
Et il faut surtout parler très fort, même avec le micro, si on veut vraiment que ce soit entendu au niveau de l'enregistrement.
Voilà, donc c'était la première remarque. La deuxième remarque également, c'est. Nous demandons que nos propos soient retranscrits par écrit sur le PV de manière identique à ceux que nous envoyons à la personne chargée du compte rendu. Alors, on a pris pour principe maintenant d'envoyer ce que l'on dit textuellement. C'est écrit, on le lit. Et donc, Steve, pour la prochaine fois, on t'enverra. Voilà. Alors, on aimerait que ce soit retranscrit de manière exacte.
Ça a été fait sur le dernier PV, c'est exactement vos questions et vos réponses. Hein.
Pas exactement.
Pas bon, exactement.
Non, je prends. Oh non, je ne vais pas citer l'exemple. Mais c'est pas exactement.
D'accord.
Mais c'est pas grave.
C'est... Comment? Oui, c'est joint, mais ils disent que les réponses ne sont pas complètement, ne sont pas les réponses qu'ils ont données.
Peut-être un exemple sur les remarques que j'ai faites sur le point 1. Elles n'ont pas été prises en compte. Donc c'était les remarques sur le DOM. Voilà, il y avait toute une liste de remarques qui n'apparaissent pas dans le PV. Sur le point 5 également, certains points n'ont pas été retranscrits sur le PV, notamment le point relatif à la démarche de signer un partenariat avec la LEC. Voilà, donc on pourra vous renvoyer les éléments que vous puissiez les noter.
Ok. Donc on va peut-être procéder différemment.
Alors, un dernier point, excusez-moi. Sur les questions orales et le point 1 du DOP, le tableau concernant les indemnités des élus, tableau donné par Bernard lors de la présentation du DOP, n'est pas dans le PV de la séance du conseil municipal tenue le jeudi 18 mars 2021.
C'est une réponse.
On ne le joint pas, mais on le rajoutera.
Oui.
On le rajoutera.
Le tableau a été présenté par Bernard.
Oui,
tu te rappelles.
Oui, bien sûr.
Merci. C'est tout.
J'aimerais peut-être bien qu'on change la façon de faire, donc pour qu'on arrive à tous être à bien communiquer. Là, M. Bord et Mme Gollin font des remarques sur ce PV. Là, par exemple, qu'est-ce que tu as pu noter?
J'ai noté, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'enregistrement après.
Bon, alors, est-ce que vous pouvez envoyer par mail les remarques que vous venez de donner par oral?
C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait la dernière fois avec Mme Cabas. J'ai envoyé intégralement. Ce que nous avons dit.
Ça a été joué en PV.
Oui. Non, mais là, vous parlez des remarques sur le PV ou. Oui.
Tout. Les remarques sur le PV, les remarques concernant les points à l'ordre du jour du Conseil, et enfin, les questions orales, même si vous les avez reçues, je les renvoie aussi à celui ou.
Donc, à partir d'aujourd'hui, vous envoyez vos remarques sur le dernier PV au secrétaire de séance qui est nommé donc le jour du conseil. Comme ça, ça sera retranscrit automatiquement et voilà, tout sera fait dans le bon ordre. Hein, parce que... Non, mais là, tu parles que des questions diverses. Ouais. Eux, ce sont les remarques sur le PV, donc sur le compte-rendu. D'accord ? Ok, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors, nous allons donc voter l'ordre du jour. Donc, dans l'ordre du jour de ce soir, nous avons en point 1 le budget primitif 2021, en point 2 les taux d'imposition, en point 3 subventions aux associations, 4 cessions de parcelles au conseil départemental, 5 demandes de subvention pour le logiciel de la bibliothèque, 6 soutien à l'achat de livres, bibliothèque municipale évidemment. Et ensuite, nous aurons les questions diverses. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. L'ordre du jour donc est adopté. Nous pouvons commencer sur le premier point. Je laisse la parole à M. Capot, adjoint aux finances, sur le budget primitif.
Voilà, est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. Donc, l'ordre du jour, ça va être effectivement les taux d'imposition 2021, le budget primitif et les subventions aux associations. Donc, contrairement à l'ordre du jour, en point 1, on va voter les taux, parce qu'on ne peut pas voter le budget si on n'a pas voté les taux, puisque ça fait partie intégrante, évidemment, du budget. Alors, bon, ça c'est juste un rappel, donc pour rappeler bon, les résultats de l'année 2020, qu'on avait voté lors du DO, juste après le DOB, donc en fonctionnement pour 1,685,809,23 et en investissement, 244,798 qu'on va retrouver donc lors du budget. Alors, les éléments significatifs, qu'est-ce qu'il y a qui, cette année, interviennent pour le budget 2021 ? La première chose, effectivement, c'est la réforme fiscale, qui est essentiellement la suppression de la taxe d'habitation. Donc, la commune ne perçoit plus de taxe d'habitation et en compensation, elle reçoit le foncier bâti que percevait le département. Les taux et les bases sont modifiés et il y a un principe de neutralité fiscale, c'est-à-dire que le montant qu'on reçoit du département, enfin de la part du département par l'État, ne doit pas faire un bénéfice pour la commune. Hein. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour la première année, on a la pénalité SRU qui s'applique, donc c'est la pénalité pour un manque de logements sociaux, et son montant est de 103 932. Ce montant va aller jusqu'en 2023, fin de la période triennale. Et à la fin de la période triennale, eh bien, on va être reconvoqué par le préfet et il faudra qu'effectivement on aille défendre notre dossier pour éviter que la pénalité ne soit fortement augmentée. Ensuite, on va vous proposer aussi d'augmenter le taux du foncier bâti de 2 points. Parce que ça, on en a vraiment besoin. Alors, je vais développer un petit peu tout ça. Hein. Donc, l'incidence de la réforme de la réforme fiscale. Donc, on a la suppression de la taxe d'habitation sur les principales. Le montant de cette suppression correspond pour la commune à 1,175,594. Là-dedans, ne sont pas compris la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qu'on continue à encaisser. On reçoit 1,348,229 de l'État, qui est la taxe sur le foncier bâti que percevait le département. Et donc, on a un montant théorique à reverser. Je dis théorique parce qu'il est recalculé chaque année, dans le but de neutralité fiscale, ce qui représente 172,635 sur les bases 2020. S'il y a des questions, je réponds, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Alors. Il y a un coefficient correcteur, puisque en fait on se rend compte qu'on reçoit davantage, donc cette somme que l'on reçoit, d'année en année, elle va être réactualisée. Donc chaque année, il y aura un coefficient qui va s'appliquer à la base de la taxe foncière bâtie. La seule chose, c'est que l'augmentation, par exemple, de 2 points qu'on va vous proposer cette année, n'est pas remise en cause. Elle, il n'y aura pas de réduction dessus, c'est-à-dire que cette augmentation, on la percevra chaque année. Ce coefficient, il est calculé de la façon suivante, c'est-à-dire on prend le montant du reversement, qui tout à l'heure c'était 172 000, mais en fait il sera de 175 000 cette année, et on le divise par la taxe sur le foncier bâti, les communes et du département. Et ce montant donne un montant de 0,93 5954, et c'est ce coefficient qui sera appliqué d'année en année. Alors c'est un peu technique, hein, mais bon. Alors, la réforme fiscale fait aussi qu'on n'a plus dans le budget de subdivision des impôts. On a une seule ligne qui regroupe le foncier bâti, le foncier non bâti et les allocations compensatrices. Par contre, les allocations compensatrices figuraient auparavant dans le chapitre dotation et maintenant figurent dans le chapitre impôt. Et on va voir effectivement que ça crée, quand on compare une année sur l'autre, ça crée un décalage. Alors, le produit de la taxe sur foncier bâti est calculé non plus sur une base comme avant, mais c'est une base pondérée. C'est-à-dire que, effectivement, comme on a une base de la commune, une base du département avec des taux différents, il y a un calcul de pondération qui se fait et qui détermine une base unique. Alors, vous allez voir aussi que le taux est modifié, puisque le taux de la commune, qui était de 20,67, donc devrait passer à 22,67, le taux du département est de 21,46, donc on va appliquer un taux de 44,12. Et la base pondérée, c'est simple, ce n'est pas un calcul très compliqué. C'est en fait, on prend la base de la commune, on le multiplie par le taux de la commune sur le taux total, on obtient une base qu'on rajoute à la base du département, multiplié par le taux du département sur la base totale. Et pour cette année, ça donne une base de 6 488 000 euros. Qui évoluera d'année en année, effectivement, en fonction d'une part du coefficient correcteur et d'autre part des nouvelles impositions, des nouvelles communes, des nouvelles parties d'habitation qui seront imposées. Alors, je vous ai mis ici une comparaison entre les impôts de 2020 et les impôts de 2021 pour que vous voyez bien comment ça se passe. Donc, vous voyez qu'en 2020, on avait une base pour la taxe d'habitation de 9 600 000 qui donnait 1 176 597. On avait le foncier bâti qui donnait 1 346 444. On avait le foncier non bâti qui représentait 50 389. On avait des allocations compensatrices de 56 497. Et l'année en 2020, on avait un total de 2 629 927. Cette année, ça va être différent puisque on aura une seule ligne pour le foncier bâti avec une base donc, de 6 488 000 avec un taux de 44,12. Le foncier non bâti, eh bien, on a une base qui diminue, hein, mais qui reste au même taux. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pardon. Alors là, on a eu qu'un montant, on n'a pas eu de base. La notification, c'est 47 330. Les allocations compensatrices, évidemment, elles baissent parce qu'il ne reste plus que sur le foncier bâti, puisque les allocations sur la taxe d'habitation, ce qui était le plus important, est intégré effectivement dans le montant qui a été compensé. Et par contre, effectivement, on déduit de ça le reversement qui provient du coefficient de correcteur, et on a un total de 2 789 376. Donc effectivement, on se rend compte quand même qu'entre 2020 et 2021, on a à peu près 150 000 euros de plus qui proviennent de l'augmentation des deux points et de l'augmentation de la base. Ça va, c'est clair jusqu'à maintenant? Donc je continue. Alors, je vous ai fait un petit tableau qui concerne chacun d'entre nous, puisque c'est en fait comment va se présenter notre taxe foncière quand on va la recevoir en 2021. Vous avez pour 2020, donc vous avez les taux, les bases et les impôts. Alors vous voyez que par exemple pour la commune, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la base 6 488 000, je l'ai divisé par le nombre de résidences principales. 1 750 000, et on obtient une base moyenne à peu près de 3 700 euros. Bon, moi, j'ai comparé, par exemple, à ma feuille d'impôt, c'est cohérent. Alors, bon, évidemment, si plus vous avez une maison importante avec un grand terrain, plus la base est importante. Si vous avez un terrain plus petit, une maison plus petite, eh bien, la base peut être... C'est une base moyenne. Donc, sur cette base moyenne, si vous voulez, on voit qu'en 2020, on avait un total de 1994 qui correspondait à la commune, l'intercommunalité, le département, la taxe spéciale, la TOM et le GEMAPI. Et en 2021, donc ça va être différent, puisque vous n'aurez qu'une base pour la commune, voyez, avec un taux de 44,12. Ensuite, vous avez l'intercommunalité qui ne bouge pas, le département disparaît, il n'y a plus de ligne pour le département. La taxe spéciale n'a pas bougé. La TOM, eh bien, elle a évolué parce que, en fait, il s'avère que la métropole faisait traiter ses ordures ménagères à Castries La décharge a été supprimée, ça a entraîné un coût de 11 millions d'euros supplémentaires pour la métropole, et donc du coup ils l'ont répercuté dans le taux, et ils ont augmenté le taux de 10%, donc on va payer 10% de plus. Le GEMAPI, c'est la même chose. Le GEMAPI, vous savez, c'est ce qui sert à prévoir les risques d'inondation, c'est-à-dire que tous les travaux qui sont faits sur le Lez, le Vidour, etc., enfin, toutes ces rivières. Et donc, il avait été créé à un moment une taxe qui s'appelle GEMAPI pour pouvoir financer ces travaux. Il se trouve que pour la métropole, leur budget est passé de 3 à 5 millions d'euros. Et donc, du coup, ça fait une augmentation assez relativement importante, mais sur des sommes qui, en fait, ne représentent qu'on est passé que de 5 euros pour nous. Hein. Donc, en fait, quand on compare une taxe de 2020 par rapport à une taxe de 2021, on se rend compte qu'en fait, ça représente 120 euros d'augmentation, mais que l'incidence des deux points sur une taxe comme celle-là ne représente que 73 euros. Voilà, donc c'est pas quand même une augmentation monstrueuse. Tout autant que la taxe d'habitation a été supprimée pour un certain nombre de personnes, au niveau national, c'est 80% de gens qui ont été exonérés à partir de 2020 de la taxe d'habitation. À Montferrier, c'est pas autant, parce que bon, les gens ont des revenus plus importants, je crois que c'est de l'ordre de 50%. Mais dès cette année, et entre cette année et l'année prochaine, en fonction des revenus des gens, la taxe va disparaître aussi. Hein. Donc ce qui veut dire que si on prend par exemple pour quelqu'un qui a été exonéré, cette année, il va payer 2114 au lieu de 1994, mais il va avoir une exonération de la taxe d'habitation qui représente à peu près le même montant. Donc, si vous voulez, l'effort fiscal qui est demandé est très faible. Alors oui, là, je vous parlais de la TOM et de la GEMAPI, mais je voulais expliquer, donc je passe. Alors, la taxe d'habitation aussi, hein, je vous l'ai dit, donc c'est une diapositive que je supprime. Alors, les taux d'imposition. Donc, ici, je rappelle donc les taux d'imposition 2020. Donc, foncier bâti, 20,67. Foncier non bâti, 79,73. Taxe d'habitation, 95. Pour 2021, donc, on va avoir à voter donc un taux de foncier bâti de 44,12. 22,67 plus 21,45. Foncier bâti, 79,73 inchangé. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le taux est gelé jusqu'en 2023. Donc, il reste à 11,95. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Pas de questions? Donc on peut passer au vote des taux. Donc il vous est proposé donc des taux d'imposition suivants. Taxe foncière sur le propriété bâti 44,12. Taxe foncière sur le foncier non bâti 79,13. Taxe 73, excuse-moi. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 11,95. Qui est contre ces taux? Qui s'abstient? Deux abstentions. Trois abstentions. Adopté. On va passer au budget. Alors évidemment, l'année 2021 va encore être une année de transition. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a beaucoup d'incertitudes sur le nombre de recettes et de dépenses compte tenu de la crise sanitaire, qui fait qu'aujourd'hui, il nous est très difficile de savoir quelles manifestations nous allons pouvoir faire, de savoir si les écoles vont être ouvertes, si on va dépenser autant à la cantine, etc. Donc tout ça fait que, bon, on a quand même monté ce budget. En essayant de dire bon, que ça va être une année à peu près normale, mais par exemple, vous verrez que pour les recettes et cérémonies, on a prévu un peu moins que par exemple l'année 2019, parce qu'on sait déjà que toute une partie de l'année, déjà, on n'a pas pu faire nos actions que nous faisions chaque année. Bon, les recettes, vous verrez que les recettes de fonctionnement bon, s'élèvent à 5 377 656 et les dépenses à 3 470 950, ce qui nous permet un virement à la section d'investissement de 1 906 706 euros. Alors, je vais quand même juste parler un peu de l'augmentation des taux. Pourquoi est-ce qu'on a augmenté les taux? Parce qu'il fallait qu'on puisse garder quand même un autofinancement, c'est-à-dire une épargne brute positive. Quand j'ai commencé à faire la première projection, j'avais tablé à peu près, comme chaque année, entre 2 et 3% d'augmentation des impôts. Et quand on a reçu les notifications, on s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus faibles. Ensuite, bon, il y a la taxe quand même sur la SRU qui est tombée, donc c'est quand même plus de 100 000 euros qui s'en vont. Et donc on arrivait à une épargne négative de 40 000 euros. Bon, ce qui l'a arrangé un petit peu, déjà, dans un premier temps, c'est qu'on a pris dans les recettes exceptionnelles, on le verra tout à l'heure, une recette exceptionnelle de 110 000 euros. Et ensuite, bon, effectivement, en remontant un petit peu le taux, ça nous permet aujourd'hui donc de dégager quand même une épargne qui est de 220 836, ce qui va quand même nous permettre, si vous voulez, déjà, premièrement, de présenter une image quand même beaucoup plus favorable, parce que, bon, on ne sait pas, mais on envisage quand même de faire quand même quelques investissements au cours de ce budget, de ce mandat, pardon. Et si on est amené à demander un emprunt à une banque, si on va avoir la banque avec une épargne négative, c'est même pas la peine, on nous prêtera pas. Donc, il faut absolument que, en plus, pratiquement, il nous est imposé d'avoir au moins une épargne brute équivalente au montant du capital des emprunts qu'on rembourse, donc qui est de l'ordre de 30 000 euros. Ce qui fait aussi que, quelque part, on va avoir les emprunts qui s'achèvent là très prochainement, on n'aura plus d'emprunts. Donc on a retrouvé une totale capacité d'emprunt. Donc on va travailler effectivement, j'ai bien avancé sur le pluriannuel, mais on va le finaliser bientôt. Et on met quand même beaucoup de choses dedans, et il faut quand même qu'on ait des ressources, parce que sinon on ne peut rien faire. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Voilà. Alors, ce budget, évidemment, prend en compte les incidences issues de la réforme de la fiscalité, ça je vous l'ai dit, hein, ainsi que des impacts de la crise sanitaire. Il intègre le report des investissements qui n'ont pu être réalisés en 2020. Bon, ça c'est une évidence. Le budget de fonctionnement. Alors ici, vous avez donc le tableau, ce tableau qui est le comparatif entre le budget 2021 et le compte administratif 2020. Donc vous voyez que les charges à caractère général progressent sensiblement. Les charges de personnel aussi, les atténuations de produits, ben, évidemment, puisqu'il y a la pénalité SRU dessus, et aussi les charges de gestion courante, et on a une charge exceptionnelle de 10 000 euros. Donc on a, entre le budget 2021 et le CA 2020, une augmentation des charges de 330 128. On va évidemment les voir en détail. Hein. Ici, vous avez toujours ce petit camembert qui vous permet de voir un petit peu le poids, par exemple, des salaires. Alors, je ne sais pas si c'est assez lisible, hein, c'est un peu loin, qui est de 44%. Hein, c'est un poids quand même important. Alors, on va passer aux charges à caractère général. Alors, vous savez que ces charges, en fait, regroupent les fluides, les achats, assurances, entretien et patrimoine. Son montant prévisionnel de 823 500 représente 23,73% des charges de fonctionnement. On a vu qu'elles étaient en augmentation sensible de 21,7%. Donc, dedans, moi, on va passer à ce tableau-là. Bon, ici, vous avez le graphique donc, qui permet de voir que, évidemment, en 2020, on avait eu moins, mais c'était la crise sanitaire, et qu'on remonte quand même sensiblement en 2021. Ici, vous avez un détail. Alors, moi, si vous voulez, ce que j'attire votre attention, effectivement, sur les points suivants, c'est les achats de prestations de services. Vous voyez qu'il n'y avait rien l'année dernière. On passe à 121 500. C'est parce que c'est la cantine, comme on a changé maintenant de fournisseur, en fait c'est un prestataire de service, donc on ne met plus ces achats d'alimentation en alimentation, mais en prestation de service. Donc on va retrouver, et vous voyez que dans les alimentations, il vous reste 55 000 euros contre 88 000 euros cette année. Alors dedans, ces 55 000 euros, il y a janvier et février, et il y a 35 000 euros qui représentent le solde des factures qui n'avaient pas été payées à la fin de l'année, parce que bon, ça, il y avait du retard. Ensuite, dans le compte d'alimentation, alors matériel roulant aussi, on a une augmentation sensible. Vous savez qu'on a fait réparer le Defender qui, pour le comité des feux de forêt, et on a quand même une facture de 8 000 euros. Hein. Ben, paraît-il, il est en parfait état, donc les gens qui s'en servent cet été seront contents d'avoir un bon véhicule hein, qui sera bien mieux que ce qu'il était l'année dernière. Le poste maintenance aussi a pas mal augmenté, il augmente de 7 165 euros. C'est parce qu'on a prévu un certain nombre d'applications pour la cantine, les écoles, enfin il y a beaucoup de choses. Et donc bon, ça a un coût, et donc on l'a prévu. Je ne sais pas si on pourra tout faire cette année, mais en tout cas, c'est prévu. Les primes d'assurance ont aussi augmenté de 7 461, tout simplement parce qu'on a fait une révision des contrats, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient mal assurées. Et ensuite, il faut qu'on paye aussi la dommage ouvrage de l'école maternelle. qui représente dans les 4 000 euros. Les versements des organismes de formation aussi, alors je ne sais pas si c'est là ou sur notre link, c'est peut-être sur notre page. Voilà. Alors, les versements des organismes de formation, alors donc on a augmenté effectivement le budget parce que on a un nouveau, enfin on va remettre au niveau le logiciel de la bibliothèque et qu'il faut pour ce faire que les bénévoles fassent des formations pour pouvoir s'en servir. Ça va permettre effectivement de pouvoir faire ce qu'ils ne faisaient pas avant, comme que les gens pourront commander les livres en période sanitaire, ça c'est important, et venir les chercher sans avoir à se balader dans la bibliothèque. En fait, il y a tout un tas d'applications qui vont leur permettre de mieux travailler. Les fêtes et cérémonies, on les a augmentées quand même. Alors, on avait en fêtes et cérémonies, que je retrouve la ligne... Ah voilà, ça y est, j'allais choper. Donc on avait 34 000 euros l'année dernière, bon, ça a été une année tout à fait atypique. Hein. On a quand même prévu 70 000 euros, donc on a prévu quand même une petite augmentation, mais on n'est pas encore aux 98 000 euros de 2019. Hein. Ben, parce que bien sûr, il y a déjà plein de choses qui ne se sont pas faites. Bon, un catalogue est imprimé, bon, c'est les cartes de vœux. Les publications, c'est entre les et les rondes. Divers, on avait 8 000 euros l'année dernière parce que en fait dedans c'est les masques, etc. On a reprévu un petit budget de 3 000, je ne pense pas qu'on l'utilise. Les frais d'affranchissement, je les ai augmentés aussi parce que jusqu'à présent c'était la perception qui acquittait, en fait, qui timbrait nos règlements. Maintenant c'est fini, ils ne le font plus, il faudra que ce soit nous qui les payons. Et autres services extérieurs, qu'est-ce que c'est déjà les autres services extérieurs? Ah oui, ça aussi, ça, je sais ce que c'est. C'était la classe de neige. Donc en 2020, on avait payé la classe de neige 2019, qui avait été payée en partie, parce qu'on a payé une partie en 2019, le solde en 2020. Et cette année, on n'a que la classe verte, donc qui nous coûte un petit peu moins cher. Pas de questions? Je continue. Salaires et charges. Donc les salaires et charges, elles augmentent aussi un petit peu. Hein. Elles représentent quand même 44,3%. Et on a une augmentation de 65 000 euros à peu près pour l'année. Alors, dedans, il y a essentiellement l'avancement des points du personnel. Ça a été calculé par Claudine, elle m'a donné le montant. Et il faut tenir compte aussi de monsieur le TGS qui est rentré en fin d'année et qui là sera là pour une année entière. Voilà l'évolution des salaires. Alors, vous voyez, ça avait légèrement baissé en 2020, puis qu'on repart un petit peu à la hausse. Alors, Ce chiffre, il est peut-être un petit peu surévalué. C'est possible qu'en 2021, on ait un petit peu moins. Mais je me méfie parce que j'ai souvent eu des mauvaises surprises sur ce chapitre. Donc je préfère toujours mettre un petit peu plus pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ici, vous avez le montant des salaires. Et donc vous voyez que les rémunérations principales, c'est là où en fait ça se passe. Hein. On est passé de 883 000 à 925 000. Je vous rappelle que les autres frais de personnel en haut, personnel extérieur, c'est les enseignants pour les gardes. Après, c'est les charges, il n'y a rien de bien particulier. Les atténuations de produits, donc vous avez vu qu'elles ont fortement augmenté, puisqu'elles étaient à 634 170 en 2020. Elles passent à 738 000, c'est parce qu'on rajoute 103 932 de la pénalité à SRU. Donc je vous ai fait un petit rappel. C'est que ces 634 000, ils sont composés de plusieurs choses. On a l'AC de 2014. C'est quoi l'AC de 2014? C'est la première attribution de compensation qui avait été calculée au moment du transfert de la taxe professionnelle à l'agglomération, puisque c'est l'agglomération à l'époque. Donc on avait récupéré la partie des impôts ménages que percevait la métropole. Et le calcul avait été pour nous, c'est-à-dire qu'on avait encaissé plus d'impôts ménages de la métropole que nous, ce qu'on avait transféré de taxes professionnelles. Donc, il y avait un montant de 249 000 qui se reporte d'année en année depuis l'origine, depuis 2014. Il n'a jamais bougé. Je voudrais juste dire quand même une chose, c'est que depuis, les habitations à Montferrier ont fortement progressé. Par contre, les commerces, on ne peut pas dire que ça ait beaucoup progressé. Donc, aujourd'hui, je pense que si on refaisait le calcul, je pense qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes gagnants. Ensuite, on a les transferts, compétences, voiries, SDIS, etc. Ça, on le sait. Hein. ça représente 384 295 qui viennent se rajouter. Je signale quand même que de 384 295, il y a 97 000 euros qui sont pour l'investissement et qui figurent pour nous en moins du fonctionnement. Donc ça, ça pénalise quand même, ça nous pénalise pas globalement, mais ça nous pénalise notre épargne brute. Hein, c'est-à-dire que ça minore de 97 000 notre épargne brute qu'on pourrait, voilà. Alors, on avait le choix à l'époque, je le dis parce que bon, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, on avait le choix à l'époque de ces 97 000 euros de les passer en investissement. Hein. Et on n'a pas fait ce choix-là, parce que si on faisait ce choix, on perdait la bonification que nous donne la métropole sur les ACI. Vous savez que chaque année, on a la possibilité d'abonder auprès de la métropole pour réaliser davantage de travaux de voirie, et ça... on perdait. Alors nous, par exemple, cette année, je vous proposais de reporter le même montant que l'année dernière, donc c'est 37 000 euros, et la métropole abonde de 37 000 euros. Alors c'est quelque chose que vous ne voyez pas, parce que c'est un budget, si vous voulez, annexe, pas un budget de la commune, c'est un budget annexe de la métropole, et donc chaque année, on a un montant donc, qui est composé effectivement des 97 000, des 37 000 euros que nous donnons, plus 37 000 euros de la métropole. À ça se rajoute le fonds de compensation de la TVA, des travaux qui ont été réalisés, puisque on nous rembourse la TVA, comme de l'investissement, ça vient, plus 20% de la taxe d'aménagement, puisqu'on en récupère 80%. Voilà. Ça, ça fait une enveloppe, et avec ça, ça nous permet de faire tous les travaux de voirie que nous faisons. Par exemple, on a prévu cette année de refaire le chemin de la qualité, de faire des travaux à l'allée des platanes. Donc ça, c'est des investissements lourds et on ne pourrait pas les faire uniquement avec les 97 000 euros parce que ça paye aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que chaque fois qu'on demande des travaux à la métropole qui ne sont pas des travaux de fonctionnement, ça nous est décompté là-dessus. On nous a dit que ces AC allaient être vus. Alors je ne sais pas dans quel sens ça va se faire, mais il semblerait qu'au niveau de la métropole, ils aient pris, donc il y a quelques années, la population, et ils aient calculé sur la population, que cette population a beaucoup augmenté, que leurs frais de fonctionnement ont augmenté, et que donc ils n'y arrivent plus, et que donc ils vont demander certainement des efforts aux communes. Ouais, voilà. Alors on verra, hein, on ne sait pas, bon, ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit, donc je pense que ça va à un moment arriver. Donc jusqu'à maintenant c'était gelé, il est possible que dans le futur ça ne le soit plus. Alors, les autres charges de gestion courante. Donc, le montant prévisionnel, 228 000, soit 6,6% des dépenses, en augmentation de 26 000 euros. Donc, ce chapitre, ça regroupe deux choses essentiellement. C'est les indemnités aux élus et les subventions aux associations. Ici, vous avez la variation. Et là, vous avez les sommes exactes. Donc, vous avez les indemnités qui passent de 80 000 à 97 000, puisque... là, c'est en année pleine, alors que l'année dernière, c'était une année ancien mandat, une année nouveau mandat. Qu'est-ce qu'il y a de particulier il y a les subventions aux associations. Donc, on a reporté 10 000 euros pour le CCAS, d'ailleurs, dont on a voté le budget hier. Les subventions aux associations, on a remis 90 000 euros. Et voilà, c'est essentiellement ça. Donc, les subventions aux associations... On les verra tout à fait à la fin, puisqu'on les votera individuellement. On va passer aux recettes, s'il n'y a pas de questions. Alors, les recettes. Donc, vous avez, comme d'habitude, ce petit tableau qui compare 2020-2021. Donc, les atténuations de charges, elles diminuent légèrement. Les opérations d'ordre dessus, les produits et services, ils augmentent de 40 000 euros. Les impôts et taxes augmentent de 204 000 euros, mais en contrepartie, les dotations de participation baisse de 76 000 euros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un produit exceptionnel de 110 000 euros. Donc, tout ça, je vais vous le commenter en détail. Donc ici, vous avez ce graphique. Alors, évidemment, chaque fois, je vous le redis, hein, vous voyez quand même que 87% de nos recettes, ce sont des impôts. Donc, c'est pratiquement le seul levier qu'on a, hein. Donc là, bon, évidemment, on a le report donc, du compte administratif 2020, donc 1 685 000, qui était quand même plus élevé que 2019. Les atténuations de charges, bon, c'est le remboursement du personnel, vous savez, pour le personnel en maladie. Donc l'année dernière, on avait perçu un petit peu moins de 20 000 euros. Cette année, compte tenu du personnel qui est en arrêt, 15 000 euros, ça me paraît tout à fait raisonnable. Je ne pense pas qu'on ait plus. Hein. Les produits et services, donc, on avait perçu 194 356 en 2020. On prévoit 6% de plus, 233 500. C'est tout simplement parce que c'est dedans, on a les recettes de la cantine, de la garderie Espace Jeune, les ventes de concessions au cimetière. Donc, il est certain que l'année dernière, les recettes cantine et garderie Espace Jeune avaient été impactées par la crise sanitaire. On espère cette année avoir davantage de périodes d'activité, d'avoir un peu plus de recettes, puisque de toute façon. Voilà. Alors là, vous avez le détail. Donc, les concessions au cimetière, on a prévu un petit peu moins. Les recettes diverses, ben, c'est l'Espace Jeune, évidemment, en garderie. Les redevances à caractère culturel, c'est les abonnements de bibliothèque. Et les redevances périscolaires, donc on avait 135 000 l'année dernière, on a prévu 160 000. Comme on a prévu beaucoup plus aussi en frais, évidemment, ça l'un va avec l'autre. Hein, c'est-à-dire que plus on a d'achats de cantine, plus on a de recettes cantine. Là, ici, vous avez la variation. Vous voyez quand même qu'on est quand même inférieur à 2019, hein, on n'a pas rattrapé. Et on passe aux impôts et taxes. Bon, on en a déjà un petit peu parlé. Donc le total de ce chapitre va s'élever à 3 millions d'euros. Ça représente 47% des recettes de fonctionnement. Alors évidemment, tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais chaque année, on a une revalorisation des bases. En général, d'ailleurs c'est un peu la mauvaise surprise qu'on avait eue, les revalorisations des bases, c'est plus 1 ou plus 1%. Cette année, on a eu 0,20, donc on est bien en deçà de l'inflation. Et donc, de ce fait, si vous voulez, là, on a eu un manque à gagner certain. Et après, bon, je vous ai parlé du taux global qui a augmenté de 44,12, qui a augmenté de 2%. Les allocations compensatives au titre des exonérations qui figuraient antérieurement dans le chapitre dotation et participation sont maintenant intégrées dans ce compte, ainsi que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Pardon.
L'augmentation de 2%, vous n'avez pas dit que c'était 2 points ?
C'est 2 points, oui, pas 2%, c'est 2 points, excusez-moi.
Il y a
marqué
2%.
Oui, c'est 2 points. C'est pas 2%, hein, excusez-moi. Ouais. Il y a une erreur là.
Oui, parce que Jean-Marie nous l'a déjà dit.
Non, c'est 2 points. Oui, c'est 2 points, excusez-moi. C'est une erreur de frappe. Oui, parce que d'ailleurs, je parle de 2 points.
C'est 4,67%.
Oui. Parce que 2 points, ça ne fait pas 2%.
Oui, c'est
vrai. Corriger.
Voilà, excusez-moi, c'est une petite erreur. Comme quoi, on ne se relie jamais assez. Hein.
C'est pour montrer que je suis.
Non, mais c'est bien. C'est un peu que ça suit.
De tête, 4,67%. Juste de tête, comme ça.
Voilà.
C'est ça. C'est exactement ça.
Voilà. Alors, là, ici, vous avez le détail des impôts et taxes. Donc, vous avez la taxe foncière, la taxe d'habitation, qui augmente de 219 000 euros. Vous voyez que les autres impôts et taxes, assez marginales. La dotation de solidarité communautaire, on ne l'a pas mis, parce que je ne suis pas du tout sûr qu'on la retouche. Vous savez, c'est ce fameux million d'euros qui avait été réparti entre les 31 communes et dont on nous avait généreusement donné 4 900 euros. Bon, le fonds de péréquation des taxes communales, bon, à peu près, on devrait toucher la même chose. La taxe sur l'électricité, bon, pour l'instant, on ne l'a pas touchée, donc j'ai prévu la même chose que l'année dernière. Et la taxe additionnelle aux droits de mutation, alors on avait touché l'année dernière 119 000, j'ai prévu 110 000, je peux vous dire dès à présent qu'on aura un montant beaucoup plus important que ça, parce qu'on a eu la notification tout récemment, donc j'avais déjà tout fini, donc je ne l'ai pas retouché. Hein. Mais là on aura une recette qui sera nettement plus importante que ça. Donc tant mieux, hein, ça nous arrangera sur notre année pour nos budgets et nos finances. Alors, les dotations et participations. Donc on a mis un montant prévisible de 209 000 euros, soit 6% des recettes de fonctionnement. Donc effectivement, en 2019, on avait perçu 282 000. Donc elles sont en baisse de 73 000. Alors c'est l'incidence du transfert des allocations compensatrices et de la baisse de la DGF. Voilà, donc ça je vais tout de suite vous donner le détail, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, ne cesse de baisser d'année en année. Cette année, l'année dernière, on avait eu 78 000, on a 68 000 euros cette année, donc on perd de nouveau 14%. La DSCR, bon, ça va, d'année en année, ils nous la maintiennent. Le FCTVA, ben c'est le remboursement de la TVA sur les comptes, puisqu'on a le droit maintenant, depuis 2 ans, de percevoir de remboursement de TVA sur des frais de fonctionnement. En fait, c'est surtout les réseaux bâtiments. Autre en recette, ah oui, en recette, on avait touché 8 873 € de remboursement de l'État. Alors dedans, il y avait les élections, et il y avait les masques essentiellement. Donc on sait qu'on va retoucher 2 000 € sur les masques, parce que ça nous avait été notifié, mais pas plus. Donc c'est pour ça que j'ai prévu ces 2 000 €. Autre organisme, 90 000 €, c'est la caisse d'allocation familiale, les aides de la caisse d'allocation familiale. Et par contre, vous voyez que toutes les compensations ont disparu. Elles sont maintenant englobées dans les impôts. Là, je vous ai fait ce petit tableau qui est quand même intéressant. Parce que quand on regarde entre 2013 et 2021, on est passé de 388 000 euros de dotation à 108 000. Donc on a une perte très conséquente, évidemment, et qui se cumule d'année en année. Mais en plus de ça, il est fort probable que ça continue à diminuer, jusqu'à arriver pratiquement à rien. Et d'ailleurs, il y a des communes déjà qui ne touchent plus rien. Alors ça vient effectivement de beaucoup de calculs, mais surtout du potentiel fiscal des habitants.
Oui, parce qu'il y a quand même des communes qui touchent plus.
Il y a des communes qui touchent plus. Mais oui, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on prend aux communes dites riches pour les donner aux communes dites pauvres. Voilà. Moi, ce que je redis chaque fois, c'est que ce n'est pas parce que les habitants sont riches que la commune est riche.
Non, parce que là, c'est violent quand même. Hein. Je dis c'est violent, là, quand même.
Oui, c'est violent. C'est très violent. Très violent. Très violent. Non, mais c'est sûr, hein, parce que... Voilà. Et c'est intéressant de le voir pour se dire quand même que nos recettes, en fait, qui sont constituées à 87% d'impôts, ça nous frappe de façon difficile, quoi, parce qu'il faut les retrouver après cet argent. Hein. Alors, les autres produits de gestion, donc pour un montant de 78 000 euros, il s'agit de revenus des loyers qu'on perçoit pour les bâtiments publics, gîtes, commerces, appartements. Hein. Voilà. Alors, évidemment, là, il n'y a que les loyers. Hein. Il n'y a plus les locations de salles, comme avant, quand il y avait des mariages, etc. C'est fini. Hein. Là, on n'a rien prévu. On a prévu vraiment que le montant des loyers. D'ailleurs, il y a des locataires qui ne payent pas. Là, c'est un autre problème. Alors, les autres produits exceptionnels... Alors ça, effectivement, je vous parlais de 110 000 euros de produits exceptionnels qui avaient bien amélioré notre épargne brute. En fait, vous vous souvenez qu'on était en procédure pour des malfaçons qui avaient lieu à la cantine. Le tribunal a tranché, a donc conclu à des responsabilités de l'architecte, des entreprises, etc., et donc nous a dévolu, je crois que c'est 114 000 euros exactement. On a commencé à toucher quelques chèques, l'avocat nous les envoie au fur et à mesure qu'il arrive à les récupérer. Donc on les a inscrits parce qu'on pense qu'on va les avoir cette année. Et en contrepartie de ça, vous allez retrouver en investissement la dépense. Hein. Mais donc on la reçoit en fonctionnement, qui améliore notre épargne brute. Par contre, on aura la dépense en investissement. Et puis, ensuite, on a 5 678 € qui correspondent à une allocation de mandat. Alors, en fait, c'est tout simplement Claudine qui m'a fait part de dépenses sur des je ne sais plus si c'est des logiciels, enfin, qui donnaient droit à récupération de TVA, qu'elle n'avait pas comprise dans les demandes de remboursement. Donc, elle s'est entendue avec la perception. Donc la perception annule les mandats sur les années précédentes, et par contre cette année, on pourra récupérer la TVA dessus. Donc c'est une recette dépense qui s'annule, mais qui va nous permettre de récupérer un petit peu de TVA. Bon, c'est dommage de ne pas le faire. Voilà pour le fonctionnement. Je vais passer à l'investissement, s'il n'y a pas de questions particulières. Ok, bon, on passe à l'investissement, là ça sera assez rapide. Alors... En investissement, donc, eh bien, on a des recettes et dépenses, évidemment, hein, c'est normal. Donc, on va retrouver en recette le virement de la section de fonctionnement, le report du... puisque l'année dernière, on avait un excédent sur l'investissement de 244 000 euros, les opérations d'ordre, c'est le transfert des amortissements, les dotations et fonds divers, 287 000, je vous en parlerai, et une subvention d'investissement à recevoir pour 40 000 euros, ce qui n'est fait un total de 2 602 259. Et avec ça... Eh bien, premièrement, on amortit la CI 2020 pour 37 506. Alors, on l'a à fois dans le report et dans l'opération d'ordre. C'est une opération neutre, mais la perception nous demande de les amortir. Ensuite, on a le capital des emprunts pour 31 400, La nouvelle subvention qu'on va verser en 2021 pour les ACI pour 37 506, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on a des immobilisations incorporelles, corporelles et en cours. Donc ça, on va le voir en détail. Et ensuite, quand on fait la balance de tout ça, il nous reste un solde de 1 771 126 qui n'est pas utilisé. Donc on reportera sur l'année prochaine, sauf si on décidait en cours d'année de faire des investissements supplémentaires. Donc sur les recettes d'investissement, ben, on a bon, là, le virement, bon ça je ne peux pas vous reporter là-dessus, le virement, le report de l'année dernière, ça je vous l'ai dit, le transfert des amortissements aussi. Voilà, ce qui est plus intéressant, c'est les dotations et fonds divers, où on trouve dedans quoi ? Le FC de la TVA pour 130 000 euros, la taxe d'aménagement reversée à la métropole à hauteur de 80% pour 120 000 euros, et l'amortissement de l'ACI pour 37 506 pour un total de 287 506. Alors, les 130 000 euros, c'est une recette réelle. La taxe d'aménagement, c'est une recette réelle, donc ça fait 250 000 euros. Par contre, les 37 506, c'est ce que vous dites tout à l'heure, hein, on l'a en recette, en dépense, donc c'est neutre. Hein. Et la subvention d'investissement, 40 000 euros, c'est la subvention qui nous est due par le département pour la création de la classe maternelle. Ils se font tirer l'oreille pour le donner parce qu'ils nous avaient demandé au départ, c'était en 2020, de faire une publicité pour comme quoi ils nous l'ont donné. On devait la recevoir tout de suite et vous voyez, on attend encore. On va la recevoir, hein, mais enfin bon, c'est long à rentrer. Et vous voyez que je ne prévois pas d'autres subventions, malgré qu'on a par exemple des subventions qui vont nous être accordées. Moi, je ne les prends que quand elles sont réelles, c'est-à-dire que les travaux sont faits et qu'on sait qu'on va les encaisser. Je ne les mets jamais d'avance. Hein. Les dépenses, alors on a des opérations d'ordre, bon, 37 506, je vous ai dit, ça c'est effectivement bon, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc c'est neutre. Le remboursement des capitales emprunts, je vous l'ai dit aussi. Ce qu'on va verser cette année aux ACI, ça aussi. Des immobilisations incorporelles pour 35 878, c'est des provisions pour honoraires et licences. Et ensuite, je vais directement passer au détail, ça sera plus intéressant. Donc, on a prévu autre aménagement de terrain, 30 000 euros. En fait, on a l'éclairage du tennis qui est en très très mauvais état et ça fait un moment qu'on nous demande de refaire les travaux. Donc, on a prévu de consacrer un budget pour ça. Sur l'hôtel de ville, en travaux, 15 000 euros, on souhaiterait finir les travaux qu'on a commencés, puisqu'on a refait deux pièces. On voudrait bien faire aussi le secrétariat, parce que bon, ça demande, c'est vieillot, c'est mal fait, il faut qu'on fasse des travaux. Donc on a prévu un budget pour ça. Pour les bâtiments scolaires, ben, on a prévu 250 768. Alors on a le solde, un petit solde pour les travaux de la maternelle, 5 768 à payer, donc ça doit déjà être payé. Vous rappelez qu'on a prévu la rénovation énergétique des écoles élémentaires. Alors, on parle d'un million et quelques d'euros, hein, mais on a dit, bon, peut-être on pourrait commencer cette année à faire quelques travaux. Donc, on a prévu 80 000 euros, mais là, on attend les accords de subvention, etc. Hein. L'aménagement coursif école maternelle, c'était une demande de M. Trosselier, mais tout compte fait, je pense que c'est les agents techniques qui vont le faire. Donc, je pense que ces 5 000 euros, on ne les dépensera pas. On avait prévu aussi de refaire la cour de l'école élémentaire et puis aussi de changer le portail de la maternelle pour sécuriser l'école. Donc là, on a prévu un budget de 50 000 euros. Et tout à l'heure, bon, vous avez vu, je vous avais mis une recette exceptionnelle de 110 000 euros. Là, vous retrouvez la dépense, hein, 110 000 euros. Je pense qu'on va le faire, la plus grosse partie, on va la faire dès cet été. Hein. On a déjà mandaté l'architecte, on est en train de voir les bureaux d'études, etc. Ça va permettre de faire ces travaux de consolidation à la cantine qui sont indispensables. Alors je pense que cette année, on fera les gros travaux de consolidation. Et l'année prochaine, je pense qu'on fera la partie esthétique, c'est-à-dire les carrelages, les peintures, les choses comme ça. Hein. Parce que malheureusement, on ne peut le faire que pendant la période scolaire. Et qu'en plus, il serait peut-être prudent d'attendre de voir que ça ne rebouge pas. Hein. Donc de laisser une année passer, et à ce moment-là, avant de faire ces travaux, ce serait dommage que ça bouge et qu'il faille refaire. Ensuite, on a prévu 25 000 euros entre bâtiments publics, travaux. Alors oui, parce qu'on se dit, par exemple, ici, à la salle du Dévézou, il y a des travaux à faire, on a des choses à faire dans les bâtiments, donc on dit, c'est dommage, il faut prévoir un petit budget pour pouvoir réaliser ce genre de travaux. Ensuite, dans les autres installations matérielles, on a prévu 25 200 euros. Alors, on prévoit toujours un petit peu de matériel pour le technique, hein, s'il faut changer une perceuse, etc. Matériel cantine, bon, mais ça, vous savez ce que c'est, hein, c'est le matériel qu'on a récupéré de l'ancien fournisseur, défibrillateur et matériel de prévention incendie, c'est des choses qui sont payées aujourd'hui. Hein. Matériel de bureau et informatique, 51 300. Alors, on a prévu de faire pas mal d'investissements informatiques dans les écoles. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et à la mairie, on voudrait remettre en place un petit peu l'informatique qui est en très mauvais état, en mettant une unité très centrale, en connectant les ordinateurs, etc. Donc, on avait un devis de 20 000 euros. Et le service enfant jeunesse avait demandé l'achat d'une tablette pour 1 300 euros. On a une aide de l'État, de la CAF, de 40%. Mobilier, on a prévu 20 000 euros.
Est-ce que tu confirmes que j'ai eu l'information selon laquelle le conseil départemental nous donnerait des ordinateurs?
Oui, absolument. Je te laisse répondre, la Brigitte.
Oui, je confirme. Ce week-end, j'ai eu M. Calva au téléphone qui m'a bien confirmé qu'au prochain vote du conseil départemental, on aurait 20 ordinateurs réformés qui arriveraient sur l'école Montferrier. Donc on attend le prochain vote au conseil départemental et à partir de là, ça sera voté puisque Renaud Calva me l'a dit. Et donc derrière, on récupérera ces 20 ordinateurs. Alors aujourd'hui, on ne sait pas quel type d'ordinateur c'est. Est-ce que ce sont des tours? Est-ce que ce sont des ordinateurs où la tour est intégrée dans l'écran? Est-ce que ce sont des portables? Aujourd'hui, on ne sait rien. Donc on attend et une fois qu'on aura ça, on verra comment on distribuera et si on va aussi loin finalement dans la demande d'informatisation de l'école élémentaire puisque là, on s'est engagé sur des ordinateurs à rentrer. Donc on va voir ce qu'on va récupérer.
Voilà. Alors, ensuite, en mobilier, on a prévu 20 000 euros. Alors, il faut équiper la sixième classe de maternelle. Donc, M. Trosselier nous avait fait passer une demande pour ça, environ 5 000 euros. Et ensuite, bon, on a mis 15 000 euros de mobilier urbain parce qu'on voudrait mettre quelques bancs à droite à gauche, faire quelques aménagements. Donc, il faut avoir une ligne budgétaire pour ça. Donc, on a prévu 15 000 euros. Ensuite, dans les autres immobilisations corporelles, on a prévu le projet histoire et patrimoine. Alors, je sais que là, cette somme, elle est peut-être un peu plus importante. Enfin, pas plus importante, je veux dire, peut-être qu'on ne consommera pas tout cette année, mais on a préféré le prévoir dans le devis qui avait été fait. Ah ben voilà, c'est fini. Voilà, je suis arrivé au bout.
Madame Gola.
Oui, Monsieur Capot, j'ai une question sur les travaux de Vesoul. En commission, on avait parlé de 240 000 euros en investissement.
Ils y sont.
C'était dans la slide.
Excusez-moi,
avant.
Oui. C'est pas détaillé
dans les slides, mais c'est tout en.
Vous l'avez là. L'immobilisation en cours, voilà, 240 000 euros.
Voilà,
oui, je l'ai sauté, excusez-moi. Donc, en fait, c'était, on avait prévu ce budget pour la salle de musique. Donc, cette fameuse salle qu'on voudrait faire derrière le DVSU. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on a, puisque bon, il faut qu'on le voit ensemble, on a eu que des esquisses d'architectes, etc. Donc, on est loin encore d'avoir mis ça en place. Il faut qu'on en parle ensemble. Mais effectivement, on espère quand même que dans le courant de l'année, on va pouvoir le commencer, en sachant que le temps qu'on finalise, qu'on demande des permis de construire, etc., si on a la chance de pouvoir le commencer en fin d'année, qu'on ait quand même une ligne budgétaire pour commencer à payer les premières factures. Voilà. Comme j'étais passé directement, j'ai oublié cette ligne. Ah mais non, mais vous faites bien, merci. Ça fait plaisir de voir que les gens qui suivent. Voilà. Alors si allez.
Si vous avez le micro.
Bon, en général, ce que je vais faire, c'est Jean-Marie qui le fait pour nous, vous savez, à chaque vote, mais voilà. Donc j'ai, comment dire, par rapport à ce budget que tu nous as présenté, voilà la synthèse que nous en faisons. Donc, sur le budget primitif, donc, et les taux d'imposition. Donc, quelques points clés. Le budget primitif, donc, il est construit sur une augmentation des dépenses de fonctionnement de la commune de 10,5%, qui est donc bien supérieure à l'inflation, qui, elle, est, d'après l'INSEE en 2020, est de 0,5%. 3471 kilo-euros contre 3149 kilo-euros. Que l'année de référence soit 2020 ou 2019, les dépenses de fonctionnement de ces deux années étant identiques. On remarque que les principaux postes donc, de dépenses en augmentation sont les charges générales pour 823 kg-euros, en augmentation importante puisque ça fait plus 21,7% par rapport à 2020 ou plus 11,5% par rapport à 2019. L'augmentation, elle, est répartie sur tous les postes. Les principaux postes en augmentation sont l'alimentation de la cantine et les prestations externes, la maintenance et les assurances multirisques. Le deuxième principal poste, c'est les charges personnelles, qui sont toujours en augmentation depuis de nombreuses années, plus 4,2% entre le compte administratif de 2020 et le budget primitif de 2021. Pour rappel, plus 4,3% en 2016, entre 2016 et 2017, plus 7,8% entre 2017 et 2018, plus 4,8% entre 2018 et 2019, stable entre 2019 et 2020 en raison de la crise sanitaire. Ensuite, le troisième poste, ce sont les charges de gestion courante, qui augmentent de 12,9% par rapport à 2020, ou de 23,6% par rapport à 2019. Cette forte augmentation par rapport à 2019